Il marchait le micro tout à l'heure ?
Non,
c'est super.
Normalement, il y a un bouton.
Et là, ça marche.
Je me suis renseigné. C'est moi ou il n'y a pas le chauffage ici aujourd'hui ?
Il n'y a pas le chauffage.
C'est bien ce qui me semblait. On va essayer de ne pas claquer des dents. Dernier effort de concentration avant la quille. Vous avez encore cours, j'imagine, après, c'est ça? C'est Nathalie Kwame qui prend la suite. Jusqu'à quelle heure tard ou... Bon, ça, c'est raisonnable. Hein? Oui, oui. Là, c'est... tout est vide. Il fait vraiment froid, en plus. Hein, ouais. Bon. Donc la dernière fois, bon, je vais attaquer et puis on va essayer d'être efficace pour se tenir chaud. Donc cette semaine, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce que j'avais avancé de manière très schématique la dernière fois concernant la colonisation à l'époque contemporaine, la politique coloniale japonaise à l'époque contemporaine. Et je vais commencer par un certain nombre d'éléments un petit peu factuels qui vont vous permettre de construire une... en prenant des notes, de construire une petite chronologie, si vous voulez, du fait colonial au Japon. Donc en gros, voici les moments forts de l'expansion coloniale japonaise. Et puis après, je reviendrai plus en détail sur chaque cas colonial, puisque en réalité, chaque cas a une originalité. Donc en 1895, normalement, c'est quelque chose que... ça devrait vous évoquer la fin de la guerre sino-japonaise, hein, la victoire de Tokyo sur Pékin à la suite de la première guerre sino-japonaise. Le Japon obtient de Pékin qu'il cesse ses relations tributaires avec la Corée sur la base ancienne, donc du système tributaire que je vous expliquais la dernière fois, c'est l'ancien système impérial chinois. C'est une exigence qui à ce moment-là revêt un caractère qui est complètement vital pour le Japon à ce moment-là, dans la mesure où depuis les années 1850, le Japon est... oui. Mais là, ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, donc c'est vraiment pour me chauffer, si vous voulez. Hein. Depuis les années 1850, le Japon est relativement actif dans ses investissements en Corée. La dernière fois, je vous avais parlé de la ville portuaire de Pusan, hein, en Corée, Pusan, P-U-S-A-N, hein, en translittération. C'est une ville qui est florissante, qui doit une grande partie de sa richesse à la présence des investissements japonais à partir du milieu du 19e siècle. Et ça n'amuse pas du tout le Japon de voir la Chine continuer à avoir un droit d'ingérence dans les affaires intérieures du territoire coréen. Donc finalement, obliger la Chine à renoncer à ses prérogatives en Corée, c'est une manière, pour bien commencer, à se ménager une zone d'influence qui aura tendance à devenir toujours de plus en plus exclusive, si vous voulez. Donc ça, jusque-là, je vous avais à peu près dit la dernière fois. Hein, ça revient à dire que le Japon cherche à protéger ses comptoirs, hein, si on veut simplifier un peu l'équation. Ça veut dire que, concrètement, l'Empire Qing, donc à l'époque, en Chine, c'est les Qing, ça s'écrit comme les Qing. Mais ça se lit Qing, Ça revient à dire que l'Empire Qing reconnaît, donc ils sont manchus, hein, les Qing, c'est pas les Han. Reconnaît donc la Corée en tant qu'État et abandonne, sur la demande japonaise là aussi, son ancienne colonie de Formose, c'est-à-dire Taïwan. Taïwan qui va être tout de suite annexé par le Japon. Alors quand je dis ancienne colonie de Taïwan, il faut quand même relativiser, parce qu'en réalité Formose, c'est donc une colonie chinoise, mais qui n'est pas connue depuis si longtemps que ça. En réalité, au XVIe siècle, les Chinois connaissaient pas, avaient pas connaissance de cette île, encore au XVIe siècle. Et c'est une île qui va servir de refuge à la dissidence chinoise. C'est-à-dire que lorsque les Qing prennent le pouvoir, donc lorsque la dynastie Manchu devient la dynastie dominante du système impérial chinois, vous avez tout un tas de potentats du sud de la Chine qui sont en désaccord avec ce nouveau pouvoir dynastique en Chine, et ces gens-là vont se réfugier à Formose. Donc Formose sert de terre refuge à une dissidence politique chinoise. Et c'est donc de fait une terre de colonisation chinoise, sachant qu'il y avait des autochtones avant l'arrivée des Chinois à Formose. Ce qui revient à dire que lorsque le Japon va annexer Taïwan, il va trouver des colons chinois et des autochtones, qui sont ce qu'on appelle en ethno-anthropologie des populations austronésiennes. On parle d'austronésiens. Et c'est avec ces deux types de populations que le colonisateur japonais va devoir composer. Ensuite, ça aussi, normalement, c'est quelque chose que vous devez avoir au moins schématiquement en tête maintenant, je pense. Depuis 1895 et la victoire donc, du Japon sur la Chine, le Japon se retrouve à avoir maintenant des visées sur les territoires de l'Asie du Nord-Est en général. Et à réfléchir de manière de plus en plus obsessionnelle à la présence de la Russie dans la région. Puisqu'en réalité, à cette époque-là, le nord-est de la Chine, le nord-est du continent de l'Asie orientale, la puissance impériale numéro 1, c'est la Russie. Une grande partie de la Mandchourie est sous influence russe. Le Liaodong a des villes portuaires fortifiées russes. Les Russes sont également très présents dans la péninsule coréenne. Les Russes ont développé de manière assez efficace le transsibérien. Vous avez tous, je pense, entendu au moins une fois parler du transsibérien, lequel est connecté à des voies de chemin de fer qui existent en Mandchourie et qui sont aussi contrôlées par les Russes. Donc le Japon voit d'un très mauvais œil finalement la présence russe sans cesse plus forte, sans cesse plus proche de l'archipel. Et c'est ce qui va conduire finalement au choc des deux blocs, le bloc impérialiste russe en développement et le bloc impérialiste japonais en développement. C'est ce qui va conduire à la guerre russo-japonaise. Je vous avais parlé la semaine dernière de guerre géopolitique, je le redis aujourd'hui. Donc 1905, c'est la victoire japonaise sur la Russie blanche, hein, la Russie tsariste. En plus de donner accès au Kouril et à Sakhalin, ça repousse la Russie au-delà de la Mandchourie complètement. Hein. Donc ça laisse le Japon complètement libre de ses actes en Corée et en Mandchourie. Et le Japon va pouvoir développer sa sphère d'influence de manière toujours plus forte, toujours plus dense, toujours plus intégrante à la métropole, à partir du moment où les Russes sont beaucoup moins présents dans le nord-est de l'Asie. Le fait que les Russes soient repoussés le plus loin possible, ça va faire qu'en 1905, le Japon va déclarer un protectorat en Corée. 1905, c'est l'ouverture du protectorat coréen par les Japonais. Hein, qui dit protectorat dit donc chef du protectorat, et le chef du protectorat, en langage administratif, ça s'appelle un résident général, envoyé par Tokyo. Donc. Ce résident général, c'est un homme d'État qui est assez célèbre à l'échelle de l'histoire de Meiji. Il s'appelle Ito Hirobumi, je vous le note hein, à titre informatif. qui est assassiné en 1909. Ça tombe presque bien qu'il se fasse assassiner, puisque ça va donner une justification à Tokyo de dire, puisque c'est comme ça, c'est plus un protectorat, on annexe la Corée. Et en 1910, c'est chose faite, on annexe la Corée, et on passe du régime du protectorat au régime du gouvernement général. Donc protectorat, résident général, gouvernement général, gouverneur général. On passe à un système plus avancé d'intégration à la métropole. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, j'utilise des mots, c'est vraiment des termes français que j'utilise, c'est pas un abus de langage de ma part. La terminologie coloniale japonaise est une traduction de la terminologie coloniale française. Donc les Japonais utilisent les termes administratifs coloniaux français qu'ils traduisent en japonais. Donc quand je vous parle de ces termes résident général, gouverneur général, vous pouvez dire que c'est effectivement dans ce sens-là que les Japonais utiliser la terminologie en japonais, mais qui est exactement la même que la française. Depuis 1905, le Japon devient extrêmement influent dans le nord de la Mandchourie, puisqu'après le protectorat en Corée, les Russes repoussés, on peut aller aussi en Mandchourie de manière plus facile. Et en particulier dans la grande région de Mandchourie qu'on appelle le Kwantung. Dans cette Mandchourie, la construction et le contrôle du transmandchourien, du train donc si vous voulez, sont le grand enjeu de la présence japonaise. C'est-à-dire qu'ils succèdent aux Russes, si vous voulez, d'une certaine manière. Les Russes étaient très présents en Mandchourie autour des voies ferrées. Les Japonais remplacent les Russes et développent encore plus cette infrastructure ferroviaire. C'est sous la forme d'une concession, hein, la nature de la présence japonaise en Mandchourie, où en gros les Japonais s'occupent du train et de sa voie et contrôlent en fait une espèce de bande de terrain qui suit la voie ferrée, et c'est une bande de 1 km de large. Donc ça revient à dire que le Japon a une concession sur la voie ferrée qui fait 1 km de part et d'autre de la voie ferrée. Et ça justifie, dans les termes de l'époque, ça va justifier que donc le Japon envoie l'armée pour justement gérer cette très très longue bande de terrain qu'est le transmandchourien. Et cette armée de terre que va envoyer le Japon en Mandchourie, c'est l'armée impériale, va prendre un nom qui va être celui de l'armée du Kwantung. Donc c'est l'armée de cette région-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'armée du Kwantung maintenant? Parce qu'en fait c'est une armée qui va avoir une postérité assez sinistre, puisque c'est elle qui est responsable qui a été engagée dans les combats très violents à Shanghai en 1937, et c'est elle qui est en grande partie responsable du sac de Nankin en cette même année 1937, lors donc du déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise. Donc on reviendra sur ces questions là mais ce sera après Noël, on va pas se gâcher les fêtes de Noël. Donc j'y reviendrai. Hein. Alors, pour comprendre un petit peu l'extension des prérogatives japonaises en Mandchourie, la chronologie ne suffit pas. Je suis obligé de vous expliquer un petit peu, en gros, pourquoi d'une concession, on passe à un système armé, et puis après, dès 1931, la création carrément d'une colonie japonaise en Mandchourie. Je suis obligé de vous expliquer les raisons politiques et économiques qui ont joué, qui ont fait basculer la chose, alors que finalement la Mandchourie est intégrée complètement que relativement tardivement dans l'appareil colonial japonais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le transmandchourien, ça rapporte plein d'argent à la compagnie qui l'exploite, qui est une compagnie japonaise, mais il n'a de sens, le transmandchourien, que si on contrôle parfaitement la Corée, puisqu'en réalité, pour relier l'archipel au transmandchourien, c'est-à-dire pour relier l'archipel au continent, on a besoin de la Corée, hein, qui est la tête de pont vers le continent, si vous voulez. Donc, on a les voies ferrées en Corée, c'est aussi pour ça que du protectorat, on passe au gouvernement général, ça permet de mieux contrôler l'espace, si vous voulez. Et de cette Corée, le réseau ferré passe tout de suite au transmandchourien. Hein, vous pouviez tout à fait aller de Tokyo à Paris en train. Vous pouviez prendre un billet en gare de Tokyo pour aller à Paris. Vous faisiez Paris Hiroshima, vous prenez le ferry, vous reprenez le train jusqu'au nord de Kyushu, vous reprenez le ferry, vous descendiez au sud de la Corée, vous preniez le train, et puis pop, la Corée, transmanchourien, transsibérien, et on arrivait à Paris. Je suis tombé comme ça au puce il y a quelques années sur un guide touristique écrit en français par le gouvernement général aux colonies japonaises. C'est donc une commande du Japon, si vous voulez, c'est 34, quelque chose comme ça. Vous avez toutes les cartes, c'est touristique, c'est écrit en français, hein, et vous avez toutes les cartes du réseau ferré japonais là-dessus, et on vous explique comment venir à Tokyo depuis Paris en train. C'est assez... Enfin, je veux dire, de nos jours, on ne peut plus le faire. Hein, parce que d'abord, il y a la Corée du Nord, forcément, c'est gênant. Donc, je vais essayer de vous expliquer les raisons de l'extension des prérogatives japonaises. Et pour ça, je suis obligé de vous expliquer ce qui se passe un peu dans les années 20, le début des années 30, mais surtout les années 20. En fait, les Tsing, là, ça termine en 1912. C'est-à-dire que... le démantèlement de l'empire chinois, il est consommé en 1912. Ça a déjà bien commencé avec la défaite de la Chine contre le Japon, les différentes défaites de la Chine contre les puissances européennes, hein, qui sont régulières. Et in fine, il y a un soulèvement, et en 1912, le système impérial tombe en morceaux. Et donc la Mandchourie... et la Chine en général, devient le théâtre d'un morcellement politique qui est assez fréquent, en fait, au fil de l'histoire de la Chine. Mais c'est une de ces périodes où la Chine se retrouve politiquement relativement morcelée. Et la Mandchourie se retrouve gouvernée par ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, qui sont en fait des potentats locaux avec leurs hommes, hein, qui s'occupent de gouverner les choses. Et les potentats locaux de la Mandchourie de l'époque vont jouer un double jeu. Ils vont jouer à fond la carte de l'investisseur japonais, parce que l'investisseur japonais, il arrive avec des infrastructures qu'il construit à sa charge et beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Un potentat. Ouais, c'est des gens qui ont du pouvoir, si vous voulez. C'est un terme relativement neutre, hein, qui ça permet de pas se mouiller, de dire que c'est ni des présidents, ni des rois, ni, enfin, c'est simplement des gens qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent avec des prérogatives qui les qualifie à gouverner. Et qu'est-ce que je disais ? Voilà, ils arrivent avec plein d'argent, donc les seigneurs de la guerre mandchous sont très contents. Ils sont très contents, et donc ils vont jouer à fond la carte du Japon. C'est eux qui octroient au Japon la concession du transmandchourien. Mais en même temps, ces potentats locaux jouent aussi la carte chinoise des Chinois de Chine, hein, puisqu'on part du principe que la Mandchourie, en réalité, ça n'est la Chine que lorsque c'est la dynastie Mandchou qui dirige la Chine. Mais en réalité, géographiquement, la Mandchourie, c'est pas exactement la Chine, hein, en termes géopolitiques, c'est un peu particulier. Et en Mandchourie, ces élites politiques locales, quoi, parce que c'est difficile de les définir, hein, vont jouer une carte, la carte du flux migratoire en provenance de la Chine. C'est-à-dire que dans les années 20, beaucoup de gens de Chine, à proprement parler, vont être amenés à venir s'installer en Mandchourie. Ça ne va pas du tout plaire aux Japonais de voir sans cesse de plus en plus de gens de Chine chinoise arriver en Mandchourie, s'installer, ouvrir des commerces, alors que le Japon, dans sa tête, très clairement, l'aventure transmandchourienne, c'est que le départ de la construction d'une zone d'influence qui se voudra un jour exclusive. Donc ça ne les amuse pas du tout de voir déborder des populations en provenance de la Chine. Ça ne les amuse pas pour une autre raison, c'est que ces gens qui viennent en provenance de Chine sont pas toujours c'est pas une émigration très aisée, c'est une émigration souvent assez miséreuse, et très rapidement ces gens-là se retrouvent confrontés à des élites locales qui sont les élites donc des seigneurs de la guerre qui s'enrichissent au contact des Japonais, et du côté des Japonais ce sont les grands administrateurs du transmandchourien qui sont relativement riches, pour pas dire extrêmement fortunés. Donc il y a un clivage de classe sociale qui s'opère. et ça, ne, enfin, ça fabrique du côté des populations chinoises récemment arrivées en Mandchourie une idéologie qui est une idéologie nationaliste indépendantiste. Et par conséquent, donc, tous ces nouveaux migrants chinois vont très rapidement développer une mentalité, une idéologie, hein, le terme est bon, anti-japonaise. Donc ça ne peut pas plaire aux investisseurs locaux japonais, ça ne peut pas plaire non plus à la métropole japonaise qui se dit bien qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire quelque chose avec la Mandchourie. Ce qui va se passer, c'est qu'en réalité... Vous avez déjà lu le Lotus Bleu, le Tintin, le Lotus Bleu, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez le sabotage des voies ferrées, tout ça? Les voies ferrées, c'est le transmandchourien qui est contrôlé par les Japonais. Et le sabotage, c'est donc les nationalistes chinois, si vous voulez. Le truc, c'est que maintenant, on sait que les nationalistes chinois, sans le savoir, ils étaient financés par les Japonais. C'est-à-dire qu'au début, non. Et puis les Japonais ont compris que le seul moyen pour court-circuiter la chose, c'était par les services secrets, organiser des sabotages, c'est-à-dire qu'on préférait savoir à l'avance où allait avoir lieu le sabotage. On a donc infiltré les groupuscules nationalistes chinois mandchous, et de fil en aiguille, on est arrivé à les rendre extrêmement actifs, extrêmement efficaces, au point que, au début des années 30, on a dit « Bon, mais voyez, après tout, donc, ces seigneurs de la guerre chinois, ils ne sont pas capables de gérer la sécurité du transmandchourien, l'armée du Kwantung n'est pas suffisante, la seule solution, c'est de rendre complètement la Mandchourie indépendante de la Chine. » On envoie encore plus l'armée, on écrase les seigneurs de la guerre locaux qui donc géraient la Mandchourie depuis la fin de l'Empire Tsing, on fiche dehors les nationalistes, on en zigouille un paquet au passage, et on décrète un état fantoche qui va s'appeler le Manchukuo. Kuo en chinois c'est Kuni, hein, c'est Koku, donc c'est le pays de, ou la principauté, ou le pays de Mandchourie, si vous voulez. On va le déclarer état indépendant, sauf qu'en réalité c'est n'importe quoi, c'est effectivement il y a un appareil d'état local qui est un peu fantoche, c'est réellement Tokyo qui gouverne la Mandchourie à partir de 1931-1932. Et si vous vous souvenez bien, c'est ce qui est à l'origine du départ du Japon de la SDN, la Société des Nations. Donc là il y a un point de rupture qui s'opère dans la politique coloniale japonaise, hein. Et c'est pour ça que donc le Japon est de plus en plus présent en Mandchourie. Je reviendrai là-dessus. Il faut savoir que la Mandchourie va de plus devenir une terre de colonisation de masse, hein, puisqu'il y a plus d'un million de Japonais de la métropole qui vont émigrer en Mandchourie. C'est donc un vrai territoire colonial au sens vraiment plein du terme, si vous voulez. Puis après, vous avez 1937. Où là, moi j'estime qu'on sort du cadre colonial strict, si vous voulez, dans la mesure où c'est le déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise, et que finalement on ne saura jamais ce qu'il aurait pu en sortir, puisque tout cela prend fin avec la fin de la guerre du Pacifique. Si vous voulez. Et là, ce sont des campagnes de conquête, hein. Vous avez donc l'armée du Kwantung, les armées stationnées à Taïwan à l'époque, qui traversent en Chine, et ce sont des troupes de conquête qui investissent la Chine et l'Asie du Sud-Est, et prennent des positions et donc aux Chinois communistes et aux Chinois nationalistes et aux Européens en Asie du Sud-Est, mais sans jamais instaurer un système administratif qu'il soit militaire ou civil, hein, de type colonial. Donc c'est pour ça que c'est difficile de considérer ça dans un continuum colonial. Ça aurait pu le devenir après la conquête, mais en fait on n'en sait rien. Et on sait que le Japon idéologiquement avait un projet impérialiste qui consistait à libérer, hein, entre guillemets, de la présence européenne toutes les régions de l'Asie de l'Est, l'Asie orientale. Mais en réalité, dans la vulgate de l'époque, il n'a jamais été précisé quelle modalité le Japon se proposait de mettre en œuvre pour gouverner ou pour diriger cette espèce de gros bloc-là, informe, qu'était l'Asie de l'Est à l'époque. Alors que pour la Corée, Taïwan ou la Mandchourie, les choses ont tout de suite été relativement plus claires. Donc ça revient à... Et puis après, 41, vous savez, c'est le début de la guerre du Pacifique. Hein. C'est Pearl Harbor. Ça. Donc ça revient à dire que, si on veut simplifier, vous avez trois grandes colonisations japonaises à l'époque contemporaine. Vous avez dans l'ordre Taïwan, puis la péninsule coréenne, et puis la Mandchourie. Et ce qui est intéressant, mais ce n'est pas spécifique du Japon, c'est qu'on tire en général trois portraits robots distincts de ces trois colonisations. Parce qu'en fait, le processus colonial de colonisation, que ce soit en France, que ce soit les Britanniques, que ce soit n'importe qui, c'est souvent un pragmatisme. C'est-à-dire qu'on va sur un territoire colonial et puis on voit ce qu'on peut faire. Comment on peut le mettre en coupe réglée? Est-ce qu'on massacre tout le monde? Est-ce qu'on peut utiliser l'appareil étatique qui existait avant? Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est en réalité l'adaptation, si vous voulez, du colonisateur au terrain qu'il colonise. Et comme, de fait, Taïwan, la Corée et la Mandchourie, ce sont des territoires extrêmement différents, sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan politique, ça va donner lieu à des politiques coloniales différentes qui ne se rejoindront en réalité que dans les années 20. Donc Taïwan, portrait robot de Taïwan, puis après je reviendrai en détail sur Taïwan et le reste, mais portrait robot de Taïwan. Taïwan, c'est une colonisation qui est un peu hybride, parce qu'en fait elle repose sur un outil qui est exclusivement militaire. Mais c'est un outil militaire administré par des civils. Donc en gros, ce sont des civils, des administrateurs coloniaux, civils, qui donnent des ordres aux militaires. C'est une colonisation qui va concerner et intéresser des couches sociales qui sont relativement élevées de la société de la métropole japonaise. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs, des gros investisseurs. Et ces gens-là vont coopérer avec les anciens colons chinois, dans bien des cas. Et ils vont faire de Taïwan un territoire qui sera relativement moderne et florissant. Les ouvriers, c'est-à-dire les classes sociales finalement les plus basses dans la hiérarchie sociale, ce sont des locaux, dans le sens autochtone, ou bien des gens venant des Ryukyu. Donc c'est-à-dire un autre territoire colonial un petit peu plus ancien de l'archipel. Et Taïwan, c'est un des territoires privilégiés d'investissement pour les grands conglomérats industriels japonais. La Corée, c'est encore différent. La Corée, c'est une image plus mixte sur le plan social qui s'en dégage, avec une plus grande réciprocité par rapport à la métropole. C'est-à-dire que le Japon investit beaucoup et la Corée apporte beaucoup au Japon. Alors que dans le cas de Taïwan, ça prend du temps le développement et la mise en valeur du territoire. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'enjeu crucial qu'il y avait à contrôler Taïwan et la Corée et à la moderniser de manière à assurer la connexion entre la Mandchourie, dont on a besoin pour les charbonnages, les aciers, et tout ça, et donc la métropole. Donc, en plus, dans le cas de la Corée, la présence japonaise, elle est plus ancienne que la colonisation officielle, puisque les Japonais sont présents au moins depuis le milieu du 19e siècle en Corée, ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le cas de la Corée, l'administration, elle est intégralement civile. Et les Japonais de métropole sont plutôt issus des nouvelles classes moyennes de la métropole. Donc ce n'est pas des ingénieurs ou des administrateurs coloniaux ou des banquiers. Ce sont plutôt des gens de classe moyenne, nouvelle classe moyenne, issue donc de l'industrialisation du début de Meiji. Oui. Oui, absolument. Obligatoirement. Non, c'est-à-dire que dans le cadre d'un développement économique, vous n'avez pas besoin d'envoyer les gens obligatoirement. Il y a du travail, quoi. C'est aussi simple que ça. On n'a pas obligé, par exemple, les colons français à aller en Algérie. Pourtant, il y en a eu un paquet qui sont allés en Algérie. Il faut dire que l'Alsace et la Lorraine avaient été perdus et que ça a créé un flux migratoire depuis l'Alsace et la Lorraine vers l'Algérie. Ça c'est un autre problème. Mais disons que la situation économique du Japon peut tout à fait justifier sur le plan démographique comme sur le plan des besoins économiques d'aller s'installer à l'étranger. Alors donc l'administration est complètement civile et les Japonais de métropole sont relativement présents, sont beaucoup plus présents en fait qu'à Taïwan, et ce sont des gens des classes moyennes. Alors que donc à Taïwan, vous vous souvenez, les Japonais au sens strict, ce sont surtout en fait massivement ou des gens des Ryukyu, donc de Okinawa, ou des gros investisseurs de la métropole, mais eux évidemment ils sont en nombre réduit. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la Corée, c'est de voir qu'en réalité, les populations locales, donc les Coréens si vous voulez, ont vraiment beaucoup plus participé à la colonisation de la Corée que par exemple les gens à Taïwan ou les gens en Mandchourie. Il y a des chiffres qui sont assez intéressants pour se donner une idée du phénomène d'assimilation, si vous voulez, des populations autochtones dans le cas de la Corée. C'est la composition de la gendarmerie en Corée. Le terme de gendarmerie, c'est pareil, c'est une traduction, enfin en japonais on dit kempeitai, c'est la traduction quasi littérale du terme de gendarmerie en français. Et la composition de la gendarmerie, c'est entre 50 et 60% des natifs de la péninsule. À Taïwan, l'armée, c'est des Japonais. L'ordre, il est pas délégué dans un premier temps, en tout cas, il n'est pas délégué aux colons chinois, il n'est pas délégué aux autochtones, il n'est pas délégué aux gens des Ryukyu. C'est vraiment l'armée. Dans le cas de la Corée, c'est la gendarmerie, donc c'est quand même une police militaire, mais c'est quand même plus une police qu'une armée de guerre au sens strict, en tout cas dans le cas de la Corée. Et vous avez 50 à 60% des effectifs de la gendarmerie qui sont en fait des Coréens. Et les Coréens sont aussi très présents et très tôt et en très grand nombre dans les effectifs de l'armée impériale de terre. L'armée du Kwantung, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a plein de Coréens dedans. Donc il y a quand même une participation à l'entreprise coloniale japonaise en Corée et dans l'Empire japonais qui est très forte de la part des natifs de la péninsule coréenne. Et ça, c'est quand même une particularité de la Corée à l'intérieur même de l'Empire japonais. Portrait-robot de la Mandchourie, maintenant, très vite aussi. C'est un visage qui est assez proche de l'idée qu'on pourrait finalement se faire d'une colonie fondée sur un front pionnier, si vous voulez. Il y a un côté un peu plus aventureux dans la colonisation de la Mandchourie. Et c'est à partir du moment où le Japon a vraiment mis en coupe réglée la Mandchourie, ça devient de plus une colonisation démographique de masse, vraiment. C'est 1,2 million gens de la métropole, et là on ne parle pas de Ryukyu ou tout ça, c'est vraiment des gens de la métropole, des régions les plus misérables par ailleurs de la métropole japonaise, qui vont s'installer en Mandchourie. Donc pour eux, aller en Mandchourie, c'est véritablement une ascension sociale. En tout cas, on recherche une amélioration des conditions de vie et une ascension sociale. Ascension sociale qui va se faire, puisque ils sont protégés par l'armée, et que donc du coup, ils se retrouvent, alors qu'ils passaient leur vie à recevoir des ordres, par exemple dans le nord-est de l'archipel, dans le nord-est de Honshu, là ils arrivent en Mandchourie, et maintenant c'est eux qui donnent les ordres, ils sont très contents. Je reviendrai sur ces questions-là, du choc entre colons colonisés. Et oui, donc ce qui est important, c'est de bien mémoriser que dans le cas de la Mandchourie, c'est pas une colonisation qualitativement importante, c'est quantitatif. La Mandchourie, c'est la soupape de sécurité des problèmes démographiques et économiques de l'archipel, si vous voulez. Donc là, je vais revenir maintenant plus en détail sur les cas de Taïwan et de la Corée, qui sont quand même les deux premières grandes colonies, celles qui vont faire l'objet d'une politique coloniale la plus longue. Vous parlez un peu du processus, finalement, et pas simplement, là je vais surtout évoquer des questions de chronologie, là je vais essayer de démêler les chevaux de la colonisation en tant que processus. Alors, je vous ai déjà expliqué ce qu'était le processus colonial d'Ancien Régime, fondé sur les relations tributaires, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est promis. Mais effectivement, dans le cas de Taïwan et de la Corée, on n'est vraiment plus dans le cadre de la colonisation des Ryukyu ou de Ezo. On est vraiment dans le cadre contemporain. Ça veut donc dire qu'on est dans le cadre d'une colonisation d'État. C'est pas, on ne confie pas à des entreprises de faire ceci ou cela. Non, c'est une colonisation d'État. Ça veut dire que l'appareil d'État est celui qui décide de ce que l'on va faire dans la colonie. il n'est pas simplement là pour retirer des dividendes. C'est vraiment l'acteur principal, c'est l'État. Et donc, Taïwan et la Corée, ce sont les deux premiers cas dans l'histoire coloniale du Japon où c'est vraiment l'État qui a la mainmise sur le processus de colonisation. Alors, le cas de Taïwan. Alors, je vous l'avais dit, hein, Formose, c'est une colonie chinoise avant de devenir une colonie japonaise, terre d'accueil donc, d'une espèce de dissidence politique chinoise dans un premier temps. Lorsqu'au lendemain de la guerre sino-japonaise, le Japon prend possession de l'île, il va tout de suite penser à un plan d'assimilation, autant sur le plan culturel qu'administratif. Dans un premier temps, le Japon va rencontrer une résistance qui est surtout le fait des populations non chinoises de l'île. Et il va falloir, en 1895, il va falloir en gros 6 mois au Japon pour écraser les rébellions, si vous voulez. Donc en 6 mois, on peut dire que le Japon a vraiment pris pied à Taïwan. La pacification à proprement parler va prendre 3 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à Taïwan, après on va dans les villages, on va dans les montagnes, et c'est, bon, évidemment, c'est pas en distribuant des bonbons qu'on calme tout le monde. Hein. Donc, mais 3 ans, finalement, ça peut paraître relativement court. Je veux dire, les guerres coloniales au sens strict, c'est-à-dire les guerres de colonisation de la France ou des Britanniques, sont plus longues. Ça a un côté sporadique et tout ça. Mais en réalité, dans le cas du Japon, à Taïwan, c'est un peu pareil aussi. Puisqu'on a, des éléments rebelles qui, de manière sporadique, attaquent des villages japonais, attaquent des villages de colons. Et ça va durer jusqu'en 1910 à peu près. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse quinzaine d'années. Pendant une grosse quinzaine d'années, les choses ne sont pas encore tout à fait posées. Et l'armée, très régulièrement, patrouille dans les montagnes pour calmer le jeu. Cette guerre coloniale, elle va coûter quand même pas mal au Japon, puisqu'en réalité, elle lui coûte un peu plus que la guerre sino-japonaise elle-même. C'est-à-dire qu'une vraie guerre entre le Japon et la Chine, la première guerre sino-japonaise, ça coûte à peu près 8000 morts au Japon. La guerre coloniale, autant du fait des escarmouches hein, avec les populations locales que du fait de la malaria, en fait, hein, parce que ça tombe comme des mouches à cause des maladies. C'est d'ailleurs ce qui est... Enfin, c'est pas marrant du tout, mais c'est intéressant de constater que les guerres coloniales françaises en Afrique du Nord, c'est pareil, on perd énormément d'hommes du fait, par exemple, des maladies comme le typhus, enfin, tout un tas de choses. Donc, et on est à peu près... les Japonais perdent une grosse dizaine de milliers de soldats. Et ça, c'est jamais bon signe. On sait pas trop, en fait, les pertes civiles. Alors évidemment, il y a des pertes civiles, hein, puisque si l'armée patrouille et qu'ils perdent quelque chose comme une dizaine de milliers de soldats sur une petite île comme Taïwan, c'est que quand même, on doit y aller assez franco en termes de combat. Mais on a vraiment pas une idée exacte de ce que ça a pu représenter pour les populations locales comme saignée, si vous voulez. Les colons chinois, ils rentrent relativement vite dans le rang. Et ils vont assez bien se mêler avec le colonisateur japonais, pour la simple bonne raison, c'est que les Chinois sont eux-mêmes des colons, issus de colons, si vous voulez, et qui sont assez complémentaires. Je reviendrai sur la complémentarité fonctionnelle, en fait, du colon japonais et du colon chinois. Par contre, les populations autochtones, elles occupent surtout les reliefs de l'île, on parle de montagnards par exemple, eux ils ont toutes les raisons du monde d'être plus ou moins en rébellion, enfin plutôt plus que moins, dans la mesure où en réalité ils sont corvéables à merci. Ils n'ont pas de vrai statut à l'intérieur des cadres coloniaux de l'époque, alors que les colons chinois ont un statut. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus comme les anciens colons de l'île, si vous voulez. Alors que les autochtones, ils sont reconnus comme, les autochtones, quoi. Et ils sont corvéables à merci, et ils sont un peu nus devant l'appareil colonial militaire japonais de Taïwan, qui est un appareil donc d'abord militaire, qui est donc un appareil qui est d'abord fait pour écraser. Sur justement cet appareil militaire, c'est cet appareil militaire qui fait l'originalité de Taïwan. C'est-à-dire un appareil intégralement militaire, sur le plan de la police, sur le plan de la circulation, tout est militaire en fait à Taïwan. Sauf donc la tête qui est faite d'administrateurs coloniaux civils. Et ce sont ces administrateurs qui, d'une manière générale, vont vraiment faire la force et l'efficacité du système colonial, qui vont faire que le système colonial va être florissant pour le Japon pendant une grosse trentaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces administrateurs coloniaux, ils sortent des meilleures écoles de l'Empire. Ils vont tous être appelés à occuper des fonctions extrêmement haut placées à leur retour en métropole, à l'intérieur de l'appareil politique. Il n'y a pas un seul grand administrateur colonial qui n'ait pas fait partie d'un grand gouvernement, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi une différence quand même par rapport à la France, où c'est loin d'être le cas, on n'a vraiment pas envoyé, si j'ose dire, nos meilleurs éléments dans les colonies, surtout en termes d'administrateurs coloniaux. Donc dans le cas du Japon, on peut vraiment dire qu'ils y envoient les meilleurs, des meilleures promotions. C'est pas les Britanniques en Australie. Vous voyez, c'est vraiment, on envoie les meilleurs éléments d'une classe d'âge pour s'occuper de la mise en administration des colonies japonaises. Premier administrateur colonial de Taïwan, en 1896, c'est Goto Shinpei. Alors Goto Shinpei, bon, c'est pareil, ça c'est comme Ito Hiromi tout à l'heure, je vous le donne à titre informatif, parce que c'est un nom que vous verrez sans doute revenir dans l'historiographie de l'époque japonaise. Alors Goto Shinpei, il va tout de suite, la première chose qu'il va faire en arrivant à Taïwan, c'est lancer un recensement. Recenser les populations, colons chinois comme autochtones, les us et coutumes des habitants de l'île, pour savoir comment on va pouvoir gouverner tout ce monde. Il va répertorier les terres de manière à fabriquer un cadastre, pouvoir gérer la propriété. On se rendra compte que les autochtones ne sont jamais propriétaires de rien. Il va fonder la Banque de Taïwan. Banque de Taïwan qui va devenir une des plus importantes banques d'Asie orientale. Et puis il va lancer, bon ça c'est plus classique si j'ose dire, il va lancer de très très grands travaux d'infrastructure, des ports, routes, ponts, chemins de fer, écoles, hôpitaux. Et va essayer comme première politique productiviste à l'intérieur de Taïwan d'étendre la production sucrière de l'île. C'est-à-dire qu'on produit déjà un peu de canne à sucre à Taïwan. En gros, Goto Shinpei va essayer de faire en sorte que Taïwan puisse constituer une extension, d'une certaine manière, du terrain de production de canne à sucre qui est déjà Okinawa à cette époque-là. Donc sur le fond, on est dans un modèle de gestion qui va pas très loin, en fait, dans son rapport avec les autochtones. On parle plus d'intégration économique finalement que d'assimilation des populations autochtones dans la réalité. Et en fait, il y a une vision qui est très pragmatique où vous avez d'une part les militaires et les administrateurs coloniaux de Taïwan et de l'autre, dans la métropole, les hommes politiques qui eux sont pour l'assimilation culturelle. Et pendant très longtemps, ce sont les militaires et les administrateurs coloniaux qui vont avoir le fin mot. À partir du début des années 20, ce sont les politiques qui vont l'emporter sur les administrateurs coloniaux. Ça aussi, c'est une grosse différence avec la France. En France, dans le cas de l'Indochine, par exemple, les administrateurs coloniaux auront toujours le fin mot par rapport à la métropole. Dans le cas du Japon, à partir du début des années 20, c'est la politique japonaise qui arrive à prendre le dessus. Et on va pousser à l'assimilation culturelle, à la japonisation, si vous voulez, décoloniser. Mais dans un premier temps, on est dans une approche beaucoup plus pragmatique et où on veut le moins possible être en contact avec les autochtones. Et on prend bien garde de conserver un statut juridique spécial à l'île, à savoir que l'île, oui d'accord, c'est un territoire du Japon, mais que les habitants de l'île, attention, Hein, les Japonais, les gens des Ryukyu, les colons chinois, d'accord, mais alors les autochtones, non, non, c'est pas les Japonais. Hein. Il y a vraiment une séparation qui est faite. Il faudra attendre 1921 pour que cela disparaisse complètement. En réalité, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je parlais de pragmatisme tout à l'heure. Peut-être qu'il vaudrait mieux parler d'utilitarisme. Dans le sens où, en fait, les militaires veulent surtout avoir rien à faire avec les populations autochtones. Ils ne veulent pas avoir à gérer l'éducation, ils ne veulent pas avoir à gérer les problèmes de déstabilisation sociale, culturelle, économique. Ils veulent garder Taïwan le plus stable possible, parce que dans leur approche de Taïwan, Taïwan, c'est à la fois, enfin, c'est une position stratégique à l'intérieur de l'Asie de l'Est, de l'Asie orientale. C'est une position stratégique parce que c'est une forteresse par rapport à la Chine, si on essaie de venir de la Chine par le sud. Et c'est une tête de pont lorsqu'on décide de se projeter militairement vers la Chine. Et en 1937, lors du déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise, justement, vous avez tout un tas de troupes japonaises qui vont partir de Taïwan pour investir directement le sud de la Chine. Donc Taïwan, il faut que ce soit une base arrière extrêmement fiable, extrêmement solide, extrêmement stable. Et on n'a surtout pas envie de commencer à aller mettre des idées saugrenues dans la tête des autochtones, comme quoi ils seraient citoyens de l'Empire et qu'ils auraient les mêmes droits que les citoyens de la métropole. Donc, un statut différencié, et on ne se mêle pas trop de ces questions-là. Et c'est donc une posture qui va finir par rentrer en conflit vraiment ouvert avec la position des hommes politiques, qui est une position idéologique, là, pour le coup, et plus une position utilitariste. Et qui va faire que donc, à partir de 1920-1921, on va accélérer un processus d'assimilation des populations locales. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes politiques, ils sont considérés que pour faire de bons sujets de l'Empire, il faut en passer d'abord par la japonisation. C'est-à-dire que... On arrivera à se garantir la fidélité des populations colonisées si on arrive à les convaincre que la culture japonaise c'est bien pour eux, que tout est formidable, que c'est le progrès, et par conséquent la japonisation c'est une acculturation effectivement des populations locales, mais en même temps ça leur permet de leur faire miroiter un empire colonial, un empire tout court japonais extrêmement fort, et de les fidéliser à l'empereur. C'est une position idéologique, hein, qui est la position civilisatrice, si vous voulez, du colon. C'est assez intéressant aussi de constater que, de ce point de vue-là, les Français et les Japonais sont assez proches. C'est-à-dire que la politique coloniale française, comme la politique coloniale japonaise, est une politique coloniale qui se veut idéologiquement civilisatrice. Hein. On est là pour libérer, éclairer les gens. Hein, dans le discours de l'époque, c'est ça qui revient. Et 1920-1921, ça revient à dire que les hommes politiques arrivent à appliquer cela à tout l'empire japonais, et que donc on va pouvoir développer des politiques extrêmement fortes de japonisation des populations colonisées, et à Taïwan donc notamment. C'est dans ce cadre de japonisation, si vous voulez, progressive, mais d'abord c'est timide, hein, qu'à Taïwan on va lancer des programmes visant à développer les populations locales. Donc on va commencer à leur apprendre le japonais, par exemple, à partir de 1906, dans le cadre de Taïwan. Progressivement, hein, dans des écoles qui sont des écoles pour les populations locales, hein, si vous voulez. Mais là où c'est contradictoire, si vous voulez, c'est qu'en même temps qu'on apporte la civilisation, on pacifie. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit aux gens, voilà, venez à l'école, on vous apprend le japonais, on vous apprend l'empire japonais, et tout ça... En même temps, les populations autochtones, quand on décide, par exemple, de construire une route, de construire un port, de construire un chemin de fer, comme on ne s'entend pas trop bien avec ces populations-là, on les réunit, on les réquisitionne, si vous voulez, on les parque, on rase les villages, on construit les routes, on construit les voies ferrées, puis une fois que c'est fini, on les relibère. Donc les gens, ils sortent des camps, ils rentrent chez eux, puis il y a une voie ferrée à la place de la maison. Vous voyez. Donc c'est sûr que pour fidéliser les gens, ça marche moyennement bien. Ça fait partie des contradictions de tous les appareils coloniaux. Hein. Ceci dit, c'est pas une particularité du Japon. Hein. Là, c'est simplement un des mécanismes, j'ai envie de dire, universels, hein, de tous les colonisateurs. Et finalement, quelque chose qui va beaucoup aider le colon japonais, c'est le colon japonais. C'est-à-dire que la bataille est gagnée à partir du moment où il y a plus de colons japonais que d'autochtones. Hein, vous vous souvenez du cas de Hokkaido, hein? Bon, ben finalement, c'est un peu ce qui se passe aussi à Taïwan. Hein, où vous avez... Alors, la différence, c'est que les Japonais de Taïwan, ce sont des gens des Ryukyu, si vous voulez. Donc c'est déjà une émigration depuis les Ryukyu, qui n'est pas une émigration forcément très... très souhaité, mais en tout cas, les gens arrivent à Taïwan et arrêtent d'être considérés comme des Japonais de seconde zone, puisque en fait, les gens des Ryukyu à Taïwan se retrouvent par exemple au poste de contremaître sur les chantiers de construction et tout ça. Donc pour eux, c'est une ascension sociale. Et donc eux vont être très contents du système, du nouveau système impérial japonais. Ils vont vraiment le faire vivre à Taïwan. Et petit à petit, vous avez donc un peuplement depuis Ryukyu qui se fait. Vous avez les colons chinois. Qui finalement ne sont plus que des colons chinois, mais sont véritablement intégrés au tissu économique et social de la colonie. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un phénomène de masse qui va faire que les autochtones sont minoritaires dans leur posture de rébellion. Et ça va les rendre d'autant plus facilement balayables par l'appareil militaire japonais. Les grands perdants, ce sont les autochtones, d'une grande manière générale. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la question, j'ai évoqué la question de la complémentarité Japon-Chine dans le cadre colonial de Taïwan. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les Japonais à Taïwan, même ceux de Ryukyu, ne sont pas, par exemple, des paysans. Ce ne sont pas des commerçants. Tous les commerçants et les paysans de Taïwan, c'est surtout en fait les descendants des colons chinois. Les Japonais des Ryukyu, ils sont davantage dans la construction, dans le bâtiment. Hein, ce sont les contremaîtres. L'élite administrative, elle vient de la métropole. Puis ensuite, vous avez la forte présence militaire, qui, elle, est quand même une présence militaire qui représente assez bien le panachage social qu'est une armée de conscription de la métropole. Et donc, du coup, bon, ben, vous avez des paysans et commerçants chinois qui vivent aux côtés... des gens qui travaillent sur les chantiers à Taïwan, ce qui fait qu'en réalité les uns ne peuvent pas vivre sans les autres, les uns apportent de la richesse aux autres, les autres permettent les uns, etc. Enfin, en gros, c'est une espèce de phénomène de symbiose qui se met en place relativement vite à Taïwan, qui va faire que les relations en réalité Taïwan-Japon, y compris après 1945, vont rester relativement, je dis bien relativement, vont rester des relations relativement bonnes entre la colonie Taïwan, ancienne colonie Taïwan, et le Japon d'après 1945. Les autochtones aussi, ils sont intégrés au système, sauf que en tant que main-d'œuvre, ils sont plus traités comme des coolies que comme des ouvriers du bâtiment, quoi, si vous voulez. Donc ce sont vraiment les grands perdants. Et c'est d'autant plus paradoxal que plus ils sont perdants, et plus le système japonais clame qu'il veut les assimiler. Donc en gros, on souhaite à tout prix assimiler, tout en considérant que les gens sont inassimilables. Et comme on est très peu porté à l'autocritique, on va avoir tendance finalement à dire que oui, bon, ben, finalement, si on n'arrive pas à les assimiler, c'est bien la preuve que c'est des gros barbares, et qu'on ne peut rien faire avec eux. C'est plus facile. Ça revient à dire que la résistance des autochtones pour les gens de la métropole, elle est incompréhensible. C'est quelque chose qui est pas, que les Japonais n'arrivent pas à comprendre. Parce que donc, le Japon apporte la civilisation, apporte la japonité, apporte plein de choses que les Japonais considèrent que tout ça c'est très bien et qu'on ne peut pas comprendre qu'en face on n'est pas forcément intéressé. Et il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la mauvaise foi et de la bêtise de la part du Japon, si vous voulez. C'est aussi qu'en réalité, le Japon s'est appliqué à lui-même une japonisation au début de Meiji, hein, à marche forcée. Je pense que je vous ai parlé du terme qu'emploient certains historiens japonais pour définir la japonisation à Meiji, c'est l'autocolonisation. Il y a des historiens japonais qui parlent de la modernisation et de la construction de l'état-nation japonais comme d'une autocolonisation, alors qu'en fait, il s'agit d'une japonisation, tout simplement. Et donc, la japonisation à marche forcée de la métropole, eh bien, tout simplement, les Japonais se proposent de l'appliquer à Taïwan, en Corée, en Mandchourie. Sauf qu'évidemment, le terrain n'est pas du tout le même, et que dans le cas de Taïwan, ça ne marche pas sur les autochtones, ça ne marche pas. Et donc, bon, ben voilà, c'est des gros barbares, c'est des sauvages, ils comprennent rien, on peut vraiment rien tirer. Et comme tout ça, c'est un cercle vicieux, ça finit à entretenir et à radicaliser les antagonismes, et ce qui fait que, par exemple, à la fin des années 20, vous avez des espèces de groupes de guérillas dans les montagnes, en Taïwan, qui font régulièrement des raids sur les installations coloniales de campagne japonaises. Ces gens-là, on va les désigner par le terme de doi. Ça s'écrit, en fait, en translittération d'époque, c'est dohi que ça s'écrit, D-O-H-I. Ça veut dire littéralement les brigands locaux, hein, si vous voulez. Qui fonctionnent selon la logique du sac, si vous voulez. Ils descendent des montagnes, ils mettent à sac un village et ils repartent. Bon, sauf qu'une fois, au tout début, j'ai plus la date en tête, c'est un exemple de l'historiographie qui est assez connu. Au tout début des années 30, il y a un groupe comme ça, assez important, d'une tribu montagnarde, qui descend, qui met à sac un village et qui massacre une centaine de colons japonais. Colons japonais, colons chinois mélangés. Hein. Ça fait tout un pataquès dans les médias japonais de l'époque, on en parle beaucoup, ça suffit, il faut faire quelque chose, tout ça. Or, Taïwan, je vous l'ai expliqué, il y a un appareil militaire qui est extrêmement conséquent, Taïwan. C'est-à-dire qu'on a tout le matériel, tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever 6000 hommes de troupes, l'artillerie lourde, l'aviation, le bombardement en gaz moutarde, les bombes incendiaires, tout va y passer. Hein? Et on va, enfin bon, en gros, on prend un canon pour tuer un moustique, si vous voulez. Ça marche bien, évidemment, le moustique a une mauvaise tête à la fin. Et les brigands sont... selon la terminologie de l'époque, hein, les brigands sont vraiment écrasés. Ils se réfugient dans un village de montagne, où ils sont à leur tour massacrés par d'autres autochtones, qui eux sont pro-japonais. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué, hein, la situation, c'est assez inextricable. Si, alors bon, une éruption de violence assez... Assez poussé, mais en réalité avec une amplitude moindre, vous avez tout un tas de cas comme ça qui émaillent, hein, à la fin des années 20, le début des années 30. Et si à ce genre de réaction violente, où on fait, dans l'exemple, hein, finalement, hein, si à ça vous ajoutez des phénomènes d'acculturation, parce que les colons japonais sont de plus en plus présents sur place, et que les sociétés montagnardes périphériques sont de plus en plus fragiles, et que donc il y a un phénomène d'acculturation qui va conduire à leur disparition, ou à leur quasi-disparition, si vous ajoutez tout ça l'un dans l'autre, ça fait qu'en ce sens, Taïwan est une colonie qui ne va plus poser de problème. Hein. Puisque, bon, ben, c'est comme à Hokkaido, quoi, d'une certaine manière. Hein. Donc voilà pour Taïwan. Le cas de la Corée, maintenant. La situation de la Corée, c'est un peu plus délicat, en fait. Enfin, si on veut. C'est plus délicat dans la mesure où le pouvoir colonial japonais il va s'installer sur un territoire qui est déjà un pays. Taïwan, c'est pas un pays, c'est un territoire de colonisation au moment où les Japonais arrivent. C'est déjà un territoire de colonisation, mais c'est pas un pays. La Corée, c'est un royaume, c'est une royauté, hein, qui entretenait donc des rapports tributaires avec la Chine, mais c'est un pays, c'est un État, avec un appareil d'État, une élite politique, tout ça. Et en plus, c'est un pays qui, le pauvre, depuis 1895 jusqu'en 1905, alors c'était d'abord retrouvé dans la situation d'un État enfin indépendant, puisque le Japon avait réussi à faire renoncer à la Chine à ses rapports tributaires avec la Corée. Donc État indépendant pendant 10 ans, qui commençait à rêver, si vous voulez, d'État-nation, d'une certaine manière. Hein. Ça a commencé à s'inventer une identité collective, enfin, tout ça était... C'était devenu un espèce de bouillonnement intellectuel assez intéressant, la Corée. Et en 1905, on leur déclare que oui, bon, ben, finalement, la Corée, maintenant, c'est un protectorat du Japon. Et en 1910, bon, ben, on annexe, et voilà, c'est le Japon. Donc forcément, c'est plus délicat dans le sens où, en réalité, il y avait des velléités nationaliste au sens où on fabrique, où on revendique la nation, hein, si vous voulez. C'est pas nationaliste au sens FM, hein, quand je parle de FN, quand je parle de nationalisme, hein, je parle de nationalisme au sens fabrication de la nation à un endroit où elle n'existe pas, si vous voulez. En Corée, on commençait à s'être, on commençait à rêver un petit peu. Bon, mais le rêve est de courte durée. La Corée, elle est davantage caractérisée sur le plan colonial par un développement qui s'appuie de manière quasi intégrale sur une volonté administrative directe. C'est-à-dire que vous avez un administrateur colonial à Taïwan qui s'appuie sur un appareil militaire. Dans le cas de la Corée, ben c'est vraiment en fait comme en métropole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la discrimination et tout ça, mais ça veut dire que l'appareil qui gère la Corée, il est de haut en bas administratif. Donc c'est comme, de ce point de vue-là, c'est comme en métropole. Ce n'est pas les militaires qui gouvernent la Corée, si vous voulez. Et pour vous donner un exemple, qui explique en fait la rapidité du développement de la Corée après 1910, du développement dans le sens où le veut le Japon, hein, c'est que, par exemple, vous avez près de 200 000 fonctionnaires. 200 000 fonctionnaires, c'est pas rien, hein. 200 000 fonctionnaires qui sont envoyés de métropole en Corée pour gérer la Corée. Ça implique une planification économique qui est extrêmement concentrée, avec une administration centrale qui est très très dirigiste sur tous les niveaux en fait de la vie. Et pour vous donner un ordre d'idée, en chiffrant là encore, par exemple au début des années 30, entre l'annexion en fait, le début des années 30, donc entre 1911, parce que 1910, c'est l'annexion, 1911 et 1930, vous avez un phénomène de croissance économique en Corée qui, du fait des investissements, du développement et des réformes structurales qu'opère le Japon en Corée, qui est de l'ordre de 3,5% tous les ans. 3,5% tous les ans, vous avez la production économique coréenne qui augmente, qui augmente, qui augmente. Donc ça veut dire qu'on arrive à dégager des richesses de manière régulière et quasiment immédiate en Corée pendant une vingtaine d'années. C'est pas parce que les Japonais, faut pas raisonner comme ça, mais c'est pas parce que les Japonais sont plus gentils en Corée qu'à Taïwan ou ailleurs. C'est simplement, vous vous souvenez de l'enjeu stratégique qu'est la Corée, hein. C'est tout simplement, on a absolument besoin d'une Corée qui marche à plein régime, à même hauteur, si possible même, que la métropole, pour assurer une bonne connexion avec le continent. Et la Corée sert même, en fait, d'argument contre-social. C'est-à-dire, j'explique l'idée, c'est que au Japon, les 30-40 premières années de l'ère Meiji, bon, on industrialise le Japon, une classe ouvrière, une classe moyenne, une classe supérieure, enfin, tout ça se met en ordre. Ce qui fait que à partir des années 1910, et surtout en 1920, vous avez de plus en plus de la revendication sociale qui se met en place dans le cas du Japon. Donc vous avez une société japonaise qui prend l'habitude de revendiquer des avancées sociales, de demander des meilleurs salaires, de demander que le riz soit moins cher. Vous voyez, il y a une vraie logique citoyenne qui se met en place au Japon. Et les grands industriels japonais jouent contre cette carte de la revendication sociale, l'investissement dans les colonies. Donc, c'est la délocalisation, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on connaît bien de nos jours. Quand vous voulez payer moins de salaire et que vous voulez qu'il y ait moins de grève, à l'époque, vous allez en Corée. Ce qui explique aussi pourquoi la Corée est industrialisée très vite, très fort, très bien, c'est qu'en fait, en termes d'appareil de production, c'est très important pour les industriels japonais de pouvoir jouer la carte de la Corée quand ça sent mauvais au Japon, sur le plan social. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Donc ça, il y a tout un tas de crises comme ça sociales qui sont court-circuitées par les grands industriels japonais du fait qu'ils sont en mesure de jouer une carte équivalente en Corée. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que la Corée permet de sauver par exemple aussi la mise du gouvernement japonais à plusieurs reprises sur le coût de la vie. Par exemple, en 1918-1919, au Japon, vous avez ce qu'on appelle les révoltes du riz. C'est une époque où les salaires stagnent et où le coût du riz est très élevé. Et donc les gens sont dans une situation au Japon où ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais ils ont du mal à se nourrir. Et en fait, la Corée va servir de grenier à la métropole japonaise. Sauf que la Corée, en termes de production agricole, c'est loin d'être un pays ayant un potentiel très développé, ça depuis très 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 longtemps. Hein. Ce qui fait qu'en fait, on va se mettre de manière régulière, par exemple entre 1920 et 1930, pour vous donner un ordre d'idée, on va tripler les importations du riz en provenance de Corée vers le Japon. Ça fait chuter les prix du riz, et comme ça les Japonais peuvent acheter du riz moins cher, puisqu'il provient de la colonie. Donc on triple les importations. Sauf que dans le même temps, entre 1920 et 1930, la production de riz, elle n'augmente que de 15% en Corée. Donc ça implique qu'en gros, les paysans coréens, ils peuvent manger des cailloux. Et on a une situation sociale en Corée qui est une situation sociale de quasi-famine, en fait, qui se met en place. Ça va déstructurer les campagnes. Et vous avez tout un tas de petits paysans qui vont partir à la ville, en fait, en Corée, pour trouver du travail dans les usines. Et c'est en cela aussi qu'on peut dire que donc la colonisation japonaise et l'industrialisation de la Corée et les problèmes, la mise en réseau de l'économie en fait entre le Japon et entre la métropole et la Corée vont déstructurer les sociétés rurales de la Corée, pour en parler, et fournir la main-d'œuvre bon marché dans les usines, dans les villes. Tout ça fonctionne en système. Et quand il n'y a pas assez de travail dans les villes en Corée, les gens vont jusqu'à émigrer en métropole. Et dans les années 30, vous avez un très fort flux migratoire en provenance de la Corée en direction de la métropole. Vous avez beaucoup, par exemple, de Coréens qui viennent s'installer à Osaka. Et ces gens-là, qui sont japonais, hein, puisque en Corée, on est japonais quand on est coréen, on a la nationalité japonaise. Ces gens-là, qui sont au Japon donc depuis presque 30 ans, au milieu des années 50, on va leur supprimer la nationalité japonaise dans les années 50, juste après le départ de l'armée d'occupation américaine. Et donc ils vont se retrouver ni coréens ni japonais, ce qui est un peu embêtant d'être apatride. Et ces gens-là, leur statut n'a changé que très récemment en fait. En Corée, une des armes indirectes, donc, puisqu'on va parler de la japonisation maintenant, je reviens sur la question de la japonisation dans les colonies. Une des armes indirectes de la japonisation, finalement, c'est la déstabilisation de l'économie rurale. Ça revient à dire ça, puisque finalement, il n'y a pas d'industrie coréenne au sens strict. L'industrie en Corée, elle est forcément japonaise, c'est les Japonais qui l'installent. Bon. Il n'y en a pas avant la présence japonaise. Donc du coup, si vous déstabilisez l'économie rurale et que vous libérez donc de la main-d'œuvre qui va aller travailler dans les usines à la ville, sachant que les usines sont japonaises, vous obligez les gens à aller à la ville pour travailler et gagner leur vie, vous les obligez à travailler dans un cadre qui est japonais. Et donc déjà, l'industrialisation de la Corée va servir de vecteur à la japonisation, finalement, de la force ouvrière. L'autre élément de japonisation, ce sont les forces de l'ordre. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai donné les chiffres de la gendarmerie. Et puis l'armée. Bon, ça c'est assez classique, on peut dire que c'est aussi un élément de la japonisation au Japon lui-même. Hein. Et puis enfin, le dernier grand vecteur de japonisation, qui n'est vraiment pas le moindre, c'est l'école obligatoire. C'est l'instauration de l'école obligatoire dans les colonies, en Corée aussi, mais partout ailleurs aussi. Que ce soit Taïwan, Corée ou la Mandchourie, on va chercher réellement à transformer les populations conquises ou colonisées en sujet fidèle de l'empereur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en soi, c'est pas vraiment un objectif très différent de celui que visaient les réformateurs de Meiji par rapport aux populations de l'archipel, par exemple en 1870 ou 1880. La clé de voûte de l'enseignement impérial, si vous voulez, hein, va reposer sur la langue nationale, donc la langue japonaise. Donc il va falloir la construire, cette langue nationale. Ça va être une des grandes inventions de Meiji, de fabriquer la langue nationale japonaise. Le kokugo, hein, c'est une invention de Meiji. Et c'est une invention assez tardive, on va mettre du temps hein, à la fabriquer. Mais ça tombe bien, elle est fabriquée au moment où on colonise. Le hasard fait bien les choses. Sur le plan de l'éducation et de la recherche, le Japon va aussi investir très très lourd dans ses colonies. Par exemple, vous avez en 1924 l'université impériale de Keijo. Keijo, c'est le nom que donnaient les Japonais à Séoul, qui est une université impériale, comme il y a des universités impériales en métropole. Vous avez une autre université impériale, qui est de l'université impériale de Taipei, qui elle est fondée en 1928. Et ces deux universités impériales, elles sont parmi les meilleures universités impériales de tout l'Empire. Aux côtés de l'université impériale de Tokyo, qui est fondée en 1877, et de l'université impériale de Kyoto, qui est fondée en 1897. Donc de ce point de vue, on peut dire que le Japon, l'administrateur japonais, ne fait pas de différence qualitative sur ce qu'il convient d'investir dans les infrastructures de formation et d'enseignement dans les colonies. Puisque véritablement, Taipei comme Keijo sont parmi les six meilleures universités de tout l'Empire. Oui ? Keijo, c'est 1924. Oui, Keijo, je vais vous l'écrire. Et ces deux universités restent, l'université de Taipei, c'est l'université de Taipei, c'est une excellente université de nos jours, et l'université de Séoul, maintenant, reste quand même l'université qui a la plus grande notoriété en Corée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces universités vont servir en réalité à former les élites locales de ces colonies, c'est-à-dire que tout le monde a vraiment le droit d'y aller. Et les élites coréennes post-1945 sont toutes issues de l'université de Keijo. Les élites de Taïwan sont toutes issues de l'université de Taipei. Donc il y a une véritable émulation intellectuelle, scientifique, politique dans ces universités. Et alors que le Japon est quand même un empire extrêmement autoritaire, on a à l'intérieur de ces universités des espaces de liberté qui sont assez... En fait, c'est assez déstabilisant quand on travaille sur l'historiographie, où on vous dit « l'Empire, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », puis après vous avez ces cadres qui sont les universités impériales, où en fait, on forme de manière assez libre les élites intellectuelles. Donc ça, c'est pour l'enseignement supérieur. À Taïwan, pour vous donner un ordre d'idée, là, je vais parler des écoles, à proprement parler, donc des petits-enfants. À Taïwan, les premières écoles, elles datent de 1899. Donc c'est quand même assez vite, hein, après l'arrivée du colon japonais. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se leurrer. Quand, à partir du moment où vous avez des colons qui arrivent avec leur famille, ils veulent que leurs enfants puissent aller à l'école. Hein, donc c'est aussi pour ça qu'on fait des écoles, hein, qu'on fonde des écoles. Mais ce sont des écoles où tout le monde peut aller. Il n'y a pas d'aspect restrictif. Donc 1899... où on apprend donc le japonais.
Est-ce qu'il y a une rupture ?
C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les colons chinois parlent, lisent et écrivent le chinois. Les autochtones n'ont pas d'écriture, puisque ce sont des tribus. Hein. C'est un système tribal. Et en Corée, il y a le coréen. Hein, donc, et c'est là qu'on va voir qu'il y a des politiques différentes qui se mettent en place. Donc, par exemple, dans le cas de Taïwan, la japonisation, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure à cause des autochtones et puis de la mainmise pendant longtemps de l'appareil militaire sur Taïwan, la japonisation, elle va devenir effrénée qu'à partir des années 1920-1921. Donc en fait, dans un premier temps, on se contente d'enseigner gentiment le japonais dans les écoles de la colonie. Après 1920-1921, à l'école, on va mettre au programme, à Taïwan, hein, je parle toujours de Taïwan, on va mettre au programme l'enseignement obligatoire de l'histoire et de la géographie de l'Empire japonais. Donc vous voyez, on entre dans la problématique de la japonisation, et donc on va leur apprendre nos ancêtres les Gaulois. Enfin, c'est pas les Gaulois, mais enfin, c'est, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est les mêmes manuels qu'en métropole, hein, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, il y a une vraie logique d'assimilation qui se met en place. Puis en 1937, on va, et c'est la première fois que les populations issues de la colonisation chinoise sont visées là. En 1937, on va interdire le chinois classique à l'école. C'est-à-dire que jusque-là, à l'intérieur de l'école japonaise, on avait des cours de chinois classique. On va les supprimer, on va les interdire à partir de 1937. C'est pas un hasard, dans la mesure où 1937, c'est le déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise. Donc, ça peut s'expliquer par le contexte idéologique là du moment. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1936, vous avez 32% de la population de Taïwan qui est japonophone. En 1940, on est à 51%. Parce que forcément, du fait de l'interdiction du chinois, il y a une surreprésentation ensuite du japonais, non pas parce que les gens arrêtent de parler chinois, mais simplement parce qu'ils font tout pour parler japonais. Puisque le chinois est interdit, on ne va pas se mettre à dire « oui, oui, je parle que chinois ». Donc ça, c'est le cas de Taïwan. En Corée, c'est plus compliqué parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y avait déjà une langue, il y avait déjà une écriture, une administration, il y avait un pays, un état, quoi, si vous voulez. Il faut vraiment faire table rase du système d'ancien régime coréen. Et dès 1911, donc là c'est beaucoup plus tôt qu'à Taïwan, hein, vous voyez, dès 1911, on a un décret impérial qui explicite qu'il faut faire des populations coréennes, tout de suite, le plus tôt possible, des citoyens, enfin pas des citoyens, le terme c'est pas citoyen, c'est des sujets de l'Empire. Il se trouve qu'en plus il y a un discours idéologique à l'époque qui consiste à dire que les Coréens, ethniquement, racialement si vous voulez, c'est la même chose que les Japonais. Et que par conséquent, il faut les assimiler le plus vite possible et qu'on en finisse, quoi. Et par conséquent, on va vraiment décréter des politiques extrêmement vigoureuses visant à acculturer les Coréens de manière à en faire des Japonais. Et là, l'acculturation, elle est consciente de bout en bout. La volonté d'acculturer est mise en place très tôt. Par rapport à tout ça, les populations coréennes ne sont pas toujours contentes. Hein. En 1919, vous avez des soulèvements de type nationaliste. Alors, ce n'est pas la guerre civile, hein, c'est des grandes manifestations, c'est du vandalisme, enfin, tout un tas de soulèvements et de désordres sociaux en Corée, de gens qui protestent contre la politique assimilationniste japonaise, tout simplement. Le Japon, qui sait très bien, parce qu'il l'a fait chez lui, et c'est la même chose en France, en fait, à partir de la Troisième République, quand il s'agit de briser les langues régionales pour imposer le français. Le Japon, qui sait très bien comment on fait pour acculturer une région, en 1922, il va en fait supprimer toutes les écoles traditionnelles coréennes. C'est-à-dire les seuls endroits où on enseignait à lire et écrire le coréen, le Japon va déclarer ces endroits illégaux. Les écoles traditionnelles coréennes, en 1922. Avec pour but évident de ruiner l'enracinement identitaire de certains groupes coréens. Et tout de suite, dans le même mouvement, le Japon instaure un système éducatif primaire qui est celui du Japon métropolitain. Hein, 6 années d'école primaire obligatoire et suppression des écoles issues de l'ancien régime coréen. Alors bon, il faut faire attention, hein, dans l'ancien régime, tout le monde n'allait pas à l'école, hein. C'est-à-dire qu'avant la colonisation japonaise, tout le monde n'allait pas à l'école en Corée. Hein. Les écoles, c'était pas les paysans qui allaient apprendre à lire et à écrire à l'école. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui, en Corée, ont soutenu le colon japonais. C'est parce que le colon japonais brisait les cadres sociaux extrêmement stricts de la société d'ancien régime coréenne, hein, qui ressemblait d'une certaine manière à la société d'ancien régime japonaise, très compartimenté. Et vous avez tout un tas de franges les plus populaires de la population qui ont vu les réformes japonaises plutôt d'un bon œil, en tout cas au début. Mais donc du coup en Corée, comme le japonais est la seule langue officielle d'enseignement, à Taïwan il faut attendre 37 hein, pour voir le chinois supprimé, mais dans le cas de la Corée, enfin, en fait très tôt, le japonais est la seule langue d'enseignement. Donc du coup, on a une langue japonaise qui est extrêmement présente. Il y a énormément de japonophones dans les... Enfin, tout le monde est japonophone dans les grandes villes coréennes. Voilà ce que ça revient à dire. Alors aujourd'hui, ben non, parce que les générations ont changé, mais les générations qui sont nées pendant la guerre, par exemple, moi j'ai des amis dont les parents baragouinent tous un japonais, parce que ça fait longtemps, mais à l'époque ils le parlaient sans accent, quoi. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi de la machine à japoniser japonaise, c'est que les gens dans les colonies, quand ils apprennent le français, pas uniquement les élites, hein, les gens quand ils le français, le japonais, se mettent à parler japonais sans accent, c'est-à-dire qu'ils parlent le japonais comme on le parle à Tokyo. Puis avec le déclenchement... alors oui, non, ce qui va vraiment poser un problème, c'est la dernière charge, finalement, de l'empire japonais dans sa problématique de japonisation. Sa dernière charge en Corée, ça va être d'interdire les noms coréens. Les noms de famille coréens vont être interdits, on va les remplacer par des noms japonais. Donc, hier à vos camarades, je vous disais, c'est comme si vous aviez un ami allemand qui s'appelle Gunther, que vous lui dites, Gunther, c'est trop dur à prononcer, tu vas t'appeler Charles. C'est ce qui se passe avec les noms de famille en Corée. Donc évidemment, là, ça fâche quand même beaucoup de monde. Hein. Et on va instaurer l'obligation que les noms de famille coréens soient donc japonisés et construits selon la méthode japonaise, c'est-à-dire toponymique. Donc généralement, les gens ont des noms de famille qui sont souvent des toponymes au Japon. Ça va être le cas en Corée. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre sino-japonaise en 1937, donc, le Japon va éprouver vraiment un très très fort besoin de resserrer encore plus son étreinte sur les colonies. Il faut être sûr que les colonies, c'est bien le Japon, qu'elles sont bien au Japon, que tout le monde est bien japonisé, et c'est ça qui permet au Japon d'être efficace après en dehors de l'Empire japonais, en vue de son expansion. Et le slogan, ça va vraiment être de faire des colonisés, des sujets de l'Empire. C'est vraiment à la fin des années 30 où ça devient obsessionnel, si vous voulez. Et plus c'est obsessionnel, et moins les gens sont japonisés. Alors tout ça, en fait, pour comprendre les ressorts de la japonisation, il faut comprendre un peu comment ça a fonctionné. Et en réalité, on se rend compte que le ressort de fonctionnement intellectuel, la logique psychologique de la japonisation, elle est assez proche de la logique psychologique qu'on a pu connaître dans le cas de la métropole française, quand il s'agissait, donc je vous disais tout à l'heure, de briser les langues régionales, ce genre de choses. En fait, c'est la brimade. Donc, pour acculturer quelqu'un ou pour lui faire abandonner son identité, on va le brimer, on va lui instiller un sentiment de honte par rapport à la culture à laquelle il appartient, à l'identité qui est la sienne pour l'instant. Et par rapport à cette honte, on va lui proposer un autre modèle identitaire, qui dans le cas du Japon est celui donc de l'Empire. Vous savez, c'était la technique du bonnet d'âne, par exemple, dans les écoles, pendant la Troisième République en France, où pour interdire aux Bretons de parler en breton, enfin on interdisait aux Bretons de parler en breton, il y avait des punitions corporelles s'ils parlaient dans la cour de récréation. Donc on fait honte, si vous voulez. Moi, mon grand-père, bon, moi, c'est pas la Bretagne, c'est le sud-ouest de la France, il était de langue maternelle occitane, par exemple. Il avait tellement honte, finalement, de parler devant nous en occitan, que quand il discutait avec ses copains en occitan, quand moi ou mes parents nous approchions, tout de suite, ils changeaient en français. Alors qu'ils ne s'adressaient pas à nous, hein, ils discutaient entre eux. Et un mal énorme à comprendre qu'on puisse s'intéresser à la langue occitane. Évidemment, c'était sa langue maternelle, donc il la parlait, mais il ne voyait pas du tout l'intérêt de l'apprendre à ses enfants, par exemple. Donc, on est arrivé à intérioriser, finalement, un sentiment de rejet par rapport, ou de honte, par rapport à une identité un peu plus ancienne, de manière à en greffer une autre par-dessus. Ça marche comme ça aussi dans les colonies. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la France. Hein. Et c'est comme ça qu'on francise, c'est comme ça qu'on japonise, si vous voulez. Alors après, il y a aussi du côté des colons japonais. Et là, c'est le cas de la Mandchourie qui est le plus éclairant. Comment psychologiquement, qu'est-ce que c'est un colon, quoi ? Dans le cas de la Mandchourie, c'est là qu'on a les exemples les plus crasses, si vous voulez, puisque c'est une colonisation assez miséreuse, hein, je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment des gens qui passaient leur temps à être brimés en métropole, qui partent en Mandchourie et qui se mettent à brimer les Mandchous. Donc l'assimilation, elle ne peut pas marcher dans un cadre comme celui-là. Parce que pour les colons, il n'y a aucun intérêt à assimiler. Si assimiler les populations Mandchous, c'est se condamner à, dans 20 ou 30 ans, recevoir des ordres de la part des Mandchous, je veux dire, où est l'ascension sociale, hein, pour le colon japonais qui est parti de chez lui. Pour vous donner un ordre d'idée des complexes de supériorité que ça engendre, j'ai un certain nombre d'extraits. Déjà, on va partir du général. Pour vous donner une idée, voilà, les Chinois, dans l'imagerie coloniale, c'est pas la métropole, hein, ça c'est l'imagerie coloniale dans la tête du colon. Voici ce qu'on en dit. Les Chinois, ils sont sales, ils sont cupides, ils sont trouillards. Les Coréens, ils puent et ils sont stupides. Les Mandchous, ils sont braves, mais ils sont pas futés. Voilà un exemple, hein, c'est un petit florilège. Un exemple de ce que peut dire, par exemple, aussi quelqu'un qui vient du nord-est de l'archipel, région extrêmement pauvre, qui traditionnellement entretient, historiquement en tout cas, un complexe d'infériorité par rapport à Tokyo et tout ça, et qui a servi vraiment de réservoir migratoire à la population de la Mandchourie, au peuplement de la Mandchourie. Voilà donc un bonhomme qui, très jeune, part en Mandchourie sur le front pionnier. Voilà ce qu'il raconte dans une lettre datée de 1937, donc juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre sino-japonaise. Ici, les Japonais commandent. Depuis que je suis en Mandchourie, je mesure la chance que j'ai eue de naître dans l'Empire du Soleil Levant. Ouais, tu m'étonnes. La puissance japonaise est considérable. Nous autres, jeunes, nous pouvons utiliser à volonté la force de travail de ces grands Mandchous de 1m80 qui nous respectent en tout. Évidemment, ils ont l'armée avec eux. Parce qu'après, au moment des rapatriements en 1945, quand il n'y a plus l'armée, c'est pas rigolo en fait. Ils vont se faire massacrer, les colons en Mandchourie. Hein. La question des rapatriements des colons et de l'armée coloniale japonaise, c'est quelque chose d'absolument inextricable après 1945, puisqu'en fait il s'agit de rapatrier en un temps record pas loin de 6 millions de Japonais. Parce que c'est ça, hein, la diaspora japonaise en Asie, c'est 6 millions. Hein. Donc vous avez des colons civils à hauteur de 2-3 millions, et puis tout le reste c'est des militaires. Hein. Donc vous avez l'obligation, enfin non, c'est pas l'obligation, puisqu'en fait l'État japonais va pas le faire. Vous avez presque 6 millions de personnes à réintégrer à la métropole après 1945. Donc ça laisse le temps aux grands Mandchous un peu bêtes et musclés de se défouler sur ceux qui leur cassaient les pieds avant. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc je continue. Si on les traite bien, donc les Mandchous, ils font de leur mieux. Nous avons l'impression d'être comme des dieux. C'est une grande et noble tâche que de devoir diriger ce peuple ignorant et simple. Bon, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, non, l'année prochaine, j'essaierai de faire une petite synthèse pour donner du sens à ce qu'est la colonisation japonaise. Qu'est-ce qu'on peut en tirer à l'intérieur des colonisations du monde, s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année.
Oui. On a un gros écart, un grand verre et un petit
peu. Non, c'est là on est synchrone.
Je peux juste regarder.
Oui, oui, oui.
Attends, est-ce que tu peux regarder le nom du livre?
Non.